VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel, deuil national de 3 jours depuis hier au Burkina Faso. Le pays est toujours sous le choc après l'attaque meurtrière de Ouagadougou. Hier, les autorités ont donné des explications. Maïsa Sérémé, la procureure du Faso, a indiqué à la presse que les deux assaillants abattus étaient très jeunes, de peau claire et noire. Elle a aussi donné les détails sur l'identité des victimes. On écoute Maïsa Sérémé, procureure du Faso.
Nous déplorons malheureusement 18 personnes tuées et pour l'instant 15 formellement identifiées, dont 8 Burkinabés, 2 Koweïtiens, 1 Canadienne, 1 Sénégalais, 1 Nigériane, 1 Turc et 1 Français. 3 corps sont en cours d'identification. Les 2 terroristes ont été abattus. Nous déplorons aussi 22 blessés, dont 5 de nos vaillants forces de défense et de sécurité. 40 personnes ont été libérées et nous enregistrons des dégâts matériels très importants. Sous la conduite du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, les enquêteurs de la gendarmerie nationale et de la police nationale ont ouvert une enquête pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, destruction volontaire aggravée de biens, le tout en relation avec une entreprise terroriste contre X, afin d'aider à l'identification des hôtes, des complices ou des facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste. Nous lançons un appel à témoins.
Maïsa Sérémé, procureur du Faso au Mali voisin, une double attaque lancée par des hommes armés non identifiés contre des camps de la MINUSMA, la mission de l'ONU, a fait hier 18 morts, dont 14 à Tombouctou et 4 à Douanza. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter ce mardi de la sécurité en Afrique. La constitution d'une force internationale anti-djihadiste au Sahel doit y être évoquée. En Guinée-Bissau, le gouvernement et la principale centrale syndicale ont signé un accord pour une hausse du salaire minimum et le paiement d'arriérés de salaire, ce qui a mis fin à la grève des fonctionnaires. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le travail a repris hier lundi dans la fonction publique suite à un accord entre le gouvernement et la centrale syndicale. Toumani Baldé, ministre de la fonction publique, a confirmé la signature d'un mémorandum en ajoutant que le gouvernement a pris des engagements dont le réajustement du salaire minimum et le paiement des arriérés selon un calendrier. L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau avait lancé le 8 août une grève de 3 jours qui avait paralysé toute la fonction publique. Le syndicat réclamait une hausse du salaire minimum de 19 200 à 59 000 francs CFA et le paiement d'arriérés de salaire dû au titre de l'année 2003. La Guinée-Bissau est un des derniers pays dans le classement du PNUD basé sur l'indice de développement humain. Le pays a connu plusieurs années d'instabilité marquées par des coups d'État et des mutineries de soldats.
Le lac Tanganyika, l'un des plus profonds du monde et que partagent 4 pays, est sérieusement menacé par la pollution. En fait, l'ONG Global Nature Fund estime que ce lac est le plus pollué au monde. À Bujumbura, la capitale burundaise, qui est à côté du lac Tanganyika, reportage de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Quand l'on arrive à une place appelée Komase dans le quartier industriel de Bujumbura, une odeur pestilentielle accueille les clients venus se désaltérer. Des alluvions qui charrient les eaux de ruissellement, des déchets ménagers, des huiles de moteur polluent énormément le lac Tanganyika, comme l'explique le plus grand environnementaliste burundais, Albert Mbonerane.
Il y a une seule chose qui peut être faite, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Le jour où le président de la République ira voir cette situation, il aime la nature, mais je souhaiterais qu'un jour il se déplace, qu'il aille sur le site Komase à 15h, quand le lac Tanganyika est en train de vomir. parce que c'est là où il va sentir cette odeur nauséabonde. Et depuis ce jour-là, il va prendre des mesures pour dire plus de pollution des eaux du lac Tanganyika. Il y a des eaux usées qui sortent des industries qui devraient être refoulées vers la station d'épuration de Buterere. Donc c'est une autre source de pollution. La deuxième source de pollution, c'est le grand garage que l'on a au Burundi. C'est toute la zone qu'on appelle Buyenzi. Toutes ces huiles sont jetées dans les caniveaux. Et tout ça, ce sont des sources de pollution. Mais tant que cette volonté politique n'existe, comme le disait l'ancien vice-président américain Al Gore, nous pouvons tout dire, il n'y aura aucun résultat.
Que faut-il faire pour enrayer cette spirale nauséabonde du lac Tanganyika? Albert Mbonerane.
Le lac Tanganyika, il est en train d'être abîmé par qui? Par nous, les êtres humains, en lui donnant en revanche des déchets ménagers et puis des déchets liquides pollués. Le gouvernement aussi a ce qu'on appelle la politique nationale d'assainissement. Tout ça, ça existe. Qu'est-ce qu'on en fait?
Sur cette plage est érigé un bistrot jadis prisé par de nombreux habitants de la capitale. Mais les clients ne sont plus légion ces derniers temps à cause de cette odeur causée par le sang venant d'une usine des pots de bétail proche. Albert Mbonerane estime qu'il faut arrêter les mesures pour endiguer cette pollution du lac Tanganyika qui renferme les plus grandes réserves d'eau douce du monde.
L'urgence serait la réhabilitation de la station de pompage qu'on appelle numéro 1, la station qui se trouve juste du côté de Chanik. Il faudrait que le gouvernement mobilise les partenaires pour que la station d'épuration de Buterere fonctionne très bien.
Le ministère de l'Environnement reconnaît que le lac Tanganyika est menacé. Le ministère demande à tout un chacun de faire son possible pour protéger les lacs Tanganyika. Sinon, des mesures draconiennes seront incessamment prises. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Une nouvelle ère commence en Colombie. Le désarmement de ce qui fut la guérilla marxiste la plus puissante du continent américain se termine officiellement ce mardi. Les FARC ont cessé d'exister en tant qu'organisation armée, a proclamé lundi le ministre de l'Intérieur Guillermo Rivera dans une interview à la radio. Les guerreros qui, pendant plus de 5 décennies, ont combattu l'État colombien débutent une nouvelle vie comme civils dans d'anciennes zones de guerre et préparent le lancement de leur parti politique. Les derniers camions chargés des fusils remis à l'ONU doivent quitter les 26 zones où les troupes sont regroupées depuis le début de l'année, selon le calendrier convenu avec le gouvernement. Le président américain Donald Trump a dénoncé hier les violences racistes de Charlottesville. Ses propos tranchent avec ses premières déclarations samedi qui n'avaient pas pointé du doigt les suprémacistes blancs et les néo-nazis. Eric Manirakiza.
Hier, Donald Trump a changé de ton. Dans une brève allocution, il a qualifié de criminels et voyous le Ku Klux Klan, les néo-nazis et les suprémacistes blancs. Sa déclaration initiale n'avait pas désapprouvé nommément les militants d'extrême droite xénophobes. Cela avait provoqué une vague d'indignation, y compris dans son propre camp républicain. Samedi, à Charlottesville, en Virginie, un militant néofasciste a intentionnellement percuté avec son véhicule des manifestants antiracistes, tuant une femme et faisant 19 blessés. Monsieur Trump a assuré que ceux qui ont agi de manière criminelle devront répondre de leurs actes devant la loi et que justice sera rendue. Le racisme, c'est le mal, a lancé le chef de la Maison-Blanche.
Et James Alex Fields, le jeune homme accusé d'avoir précipité sa voiture sur des manifestants antiracistes samedi à Charlottesville en Virginie, tuant une femme et faisant une 20aine de blessés, a été maintenu en détention hier lundi. Le magistrat a refusé de le remettre en liberté sous caution et a fixé la prochaine audience au 25 août. Le département de la justice poursuit de son côté sa propre enquête fédérale pour crime de haine. Les autorités de Guam se sont dites follement heureuses mardi que la Corée du Nord ait apparemment reculé dans son projet de tirer des missiles en direction de ce territoire américain dans le Pacifique. Les tensions ne cessent de s'aggraver depuis que le Nord, la Corée du Nord, a testé en juillet 2 missiles balistiques intercontinentaux qui semblent mettre à sa portée une bonne partie du territoire américain. Et puis un djihadiste retranché s'est fait exploser aujourd'hui dans le centre de la capitale du Bangladesh, Dhaka, pour échapper aux forces de sécurité qui s'apprêtaient à donner l'assaut de sa chambre d'hôtel, a annoncé la police locale. Survenu au 3e étage d'un hôtel sur une artère de Dhaka, l'explosion déclenchée par le suspect qui n'a pas fait d'autres victimes a obligé les policiers à se mettre à couvert pour jeter des débris et de la fumée dans la rue. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.